La chronique de psychologie sociale en compagnie de Roxane de la Sablonnière, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être et cofondatrice du projet Intercom. Bonjour Roxane.
Bonjour Hélène.
Alors, vous nous présentez une chronique aujourd'hui qui a été préparée par vous en collaboration avec Catherine Parent, Alexis Lapointe, Elisabeth Gagnon, qui sont toutes étudiantes au baccalauréat à l'Université de Montréal. Et puis aujourd'hui, Roxane, vous vous interrogez sur les changements sociaux dramatiques, prédire les changements sociaux dramatiques, réalité ou fiction?
Oui, imaginez, Hélène, deux attentats presque identiques. Il y a le même nombre de victimes, le même mode opératoire. En Nouvelle-Zélande, la vie reprend son cours normalement en une semaine. En Égypte, le même événement met le feu aux poudres et déclenche le printemps arabe. Donc, pourquoi un même événement ne produit-il pas les mêmes effets partout? Pourquoi certaines sociétés absorbent un choc plus facilement alors que d'autres basculent dans le chaos? Donc, c'est exactement ce que je tente de comprendre avec mon équipe à l'aide d'un outil, un algorithme qui est capable de modéliser le changement social.
Expliquez-nous d'abord et avant tout, c'est quoi le changement social?
Oui, bien le changement, tout d'abord, c'est un processus qui est unique. Donc, lorsque quelque chose, quelqu'un ou la société change, il y a une transition d'un état à un autre. Donc, par exemple, une substance peut passer de l'état liquide à l'état solide, tout comme une personne pourrait être un jour très colérique et puis s'adoucir dans le temps. De la même manière, une société peut aussi changer d'état, par exemple en passant de la stabilité au chaos.
Oui, on préférait le contraire, mais bon.
Ouais.
Quels sont les états d'une société possible?
D'abord, il y a la stabilité. Donc, lorsqu'un événement survient, parfois même un événement majeur, grave, mais il survient sans remettre en question les institutions, les normes ou même l'identité collective. Donc, la société, elle encaisse le choc et continue de fonctionner comme avant. Par exemple, lorsqu'un gouvernement est réélu, on peut dire que c'est un événement qui se passe, mais après l'élection, les institutions, puis la vie de tous les jours continue sans rupture majeure. Il y a aussi, à l'opposé, un autre état de société qui est l'inertie collective.
Ah, la torpeur, on dit.
Oui, oui. Dans les récits utopiques, non. Ici, ouais. Il n'y a pas nécessairement de choc brutal, mais plutôt un vide. Donc, les institutions fonctionnent mal, les normes sociales sont floues, les objectifs collectifs disparaissent ou bien sont moins évidents. Les individus savent plus trop quoi vers la société, là, vers quoi elle se dirige. C'est une situation où, malgré les crises ou les promesses de changement, rien ne se transforme réellement. C'est comme si la société se trouvait figée dans l'attente. Donc, ces deux états, la stabilité et l'inertie collective, c'est d'une certaine façon, ça représente un certain statu quo. Puis, entre ces deux états-là, parce qu'ils sont quand même assez opposés, il y a ce que l'on trouve, le changement social incrémentiel. Donc, c'est un état où la société, où il y a des petites transformations qui sont lentes, progressives, comme des réformes, des changements de valeurs, des évolutions technologiques. Par exemple, on peut penser à l'apparition de la radio. Au début, il y avait un petit choc, des questionnements, mais finalement, ça s'est intégré, somme toute, bien dans notre fonctionnement social. Donc, la société ici change progressivement. On ne s'en rend pas tellement compte. Quand il y a un déséquilibre, bien, l'équilibre se remet rapidement, somme toute. Finalement, il y a le changement social dramatique. C'est lorsqu'un événement perturbateur est rapide, contrairement à progressif, donc provoque une rupture majeure. Les institutions sont déstabilisées, les normes sociales sont bouleversées, puis on peut se sentir menacé collectivement et personnellement. Donc, dans ces moments-là, les repères s'effondrent, puis la société ne fonctionne plus comme avant. C'est un type de changement qui est quand même assez déstabilisant, mm-hmm. psychologiquement.
On s'en rend compte, là, on le ressent.
Oui, exactement, à tous les niveaux. Puis c'est pour ça qu'on est motivé à le modéliser.
Qu'est-ce qui fait qu'un événement devient ou non un changement social dramatique?
Pour qu'un événement devienne un changement social dramatique, il y a quatre caractéristiques qui doivent être présentes simultanément. Et puis, on peut retourner à la pandémie comme un exemple, mais il y a plusieurs autres exemples aussi. Donc, premièrement, la vitesse de l'événement. En quelques semaines, dans ce cas-là, des sociétés entières se sont arrêtées, les frontières ont fermé, il y a eu des confinements, les hôpitaux débordés. Donc, il y a eu une certaine rapidité du choc qui a dépassé la capacité normale d'adaptation.
Oui, de l'absorber, ce choc-là.
Exactement. Des individus, puis des institutions aussi. Deuxièmement, il y a la rupture des structures sociales. Ça, en gros, ça veut dire que la COVID, par exemple, dans ce cas-ci, a perturbé nos institutions, les gouvernements, système de santé, économie, éducation, travail. Donc, il y a des secteurs entiers qui ont cessé de fonctionner normalement du jour au lendemain. Il y a eu une énorme rupture à ce niveau. Troisièmement, il y a la rupture des normes sociales. En gros, ce sont nos comportements, autrefois peut-être banals, comme se rassembler, se serrer la main, visiter ses proches. Tout ça est devenu interdit ou bien moralement répréhensible si on le faisait. Donc, en gros, ce sont les règles du vivre ensemble qui ont été redéfinies en urgence. Finalement, la quatrième caractéristique, c'est la menace à l'identité culturelle. Donc, en Occident, par exemple, la pandémie a ébranlé certaines de nos valeurs fondamentales comme la liberté individuelle, le contrôle sur sa vie personnelle et même parfois la confiance envers les institutions. Il y a beaucoup de personnes qui ne reconnaissaient plus la société dans laquelle ils vivaient. Donc, ces quatre éléments ensemble, la vitesse, la rupture des structures sociales et normatives, et puis la menace identitaire, ça a fait en sorte que la COVID a été un véritable changement social dramatique. Et puis, comme je l'ai dit plus tôt, il y a d'autres événements. On peut penser à la guerre en Ukraine, à certaines révolutions passées aussi qui se sont produites à travers le monde. Puis c'est ce type de trajectoire que l'algorithme du changement social cherche à modéliser.
Mais pourquoi un algorithme?
Des fois, je me pose la question aussi. Pourquoi un algorithme? Bien, l'algorithme du changement social, c'est un projet que j'ai co-construit avec Jean-Marc Lina, qui est professeur au département de génie électrique de l'ETS, et Diana Cardenas, qui est professeure en psychologie sociale à l'Université de Montréal, donc ma collègue. Dans les dernières années, on a observé qu'il y a une multitude d'événements bouleversants, donc des crises sanitaires, la guerre Israël-Palestine, des feux de forêt, des révoltes en Iran, par exemple, et bien d'autres endroits.
C'est pas le choix qui manque,
non,
malheureusement.
Non, exactement. Il y a même l'ONU, en 2022, qui a écrit un rapport où il était écrit que les catastrophes naturelles devaient augmenter de 40 % d'ici 2030. Puis il y a plein d'autres statistiques de ce genre-là qu'on retrouve dans les écrits. Donc, il y a des répercussions majeures sur l'ensemble de la société, sur le bien-être collectif et individuel, sur l'économie, la sécurité, puis les ressources qui sont disponibles dans tous ces endroits. Donc, il devient essentiel de trouver des moyens de s'adapter à ces changements de société qui sont inévitable. Donc, pourquoi? Pour limiter les conséquences négatives. C'est ça le but de l'algorithme. Donc, c'est un outil qui permet de mieux comprendre, anticiper, puis se préparer au changement social. Donc, à terme, notre espoir, c'est qu'il pourrait être utilisé par les instances gouvernementales afin d'aider les décideurs à allouer les ressources nécessaires pour faire face aux transformations.
Mais dites-nous, Roxane, comment fonctionne le fameux algorithme?
Je garde ça pour la fin. Donc, l'algorithme, ça repose sur une approche multidisciplinaire. Ça combine des modèles théoriques du changement social provenant de la sociologie et de la psychologie. Donc, et évidemment, des outils mathématiques, parce qu'on veut mathématiser en quelque sorte ces grandes théories. Mm-hmm. Donc, ça permet de modéliser l'état de société.
Modéliser, c'est faire un modèle?
Oui, faire un modèle. Puis c'est vraiment, l'idée, c'est qu'on veut prédire qu'est-ce qui va se passer en fonction d'événements perturbateurs qui peuvent arriver à un moment X. Donc, on se donne l'idée à quel état de société nous sommes en ce moment. Mm-hmm. Et s'il y a un événement qui se produit, un événement perturbateur, donc ça peut être un confinement, si on prend le cas de la pandémie, à un moment donné, bien, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Puis on tente avec des équations mathématiques.
Ouais, pas une boule de cristal. Là.
Non, ben non. On essaye, mais on est toujours dans la description pour le moment.
OK, oui.
OK, il faut faire attention parce que...
Oui, avant de se projeter, il faut bien analyser les faits.
Exact. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir, de mieux comprendre qu'est-ce qui pourrait se passer. C'est comme si on établissait plusieurs scénarios possibles, puis de voir aussi dans quel pan de la société on peut allouer plus ou moins de ressources, ou dans quel pays, par exemple, il va y avoir des perturbations plus majeures ou non, ou dans quel pays on va basculer vers le changement social dramatique ou non. Fait que ça permet d'être, d'une certaine façon, un outil décisionnel. Mais tu sais, est-ce que vraiment on va réussir à prédire le changement social?
Ouais.
Peut-être, mais il faut faire attention aussi, puis ça va être ma conclusion. Mais avant ça, j'aimerais vous dire que d'abord, c'est un algorithme qui provient de la théorie. Des théories, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Puis, pour le développer, j'ai fait une recension exhaustive de la documentation en sociologie et psychologie. Donc, plus de 5000 résumés scientifiques ont été considérés, plus de 300 articles ont été lus plusieurs fois en profondeur pour déterminer les caractéristiques du changement social, puis ce qui peut faire en sorte qu'une société va basculer d'un état à un autre. Ensuite, l'autre étape, ça a été vraiment de définir les termes mathématiques de l'algorithme. Puis souvent, je laisse ça à mes collègues spécialistes en mathématiques comme Jean-Marc Lina. Et puis, en gros, c'est un algorithme qui est fondé, c'est un algorithme théorique qui est fondé sur des probabilités, puis qui modélise la manière dont un événement perturbateur entraîne une transition d'un état de société à un autre.
C'est tout?
Ça. C'est tout.
Mais c'est non, tout c'est déjà facile. Beaucoup.
Mais en conclusion, j'aimerais ça qu'on revienne sur un célèbre film. Je ne sais pas si vous l'avez visionné. Retour vers le futur, ça a été très, très
mais
populaire.
Oui, bon, Back to the Future.
Qui n'a pas vu Back to the Future? Donc, l'avenir n'est jamais réellement figé. Il dépend des trajectoires actuelles du système puis des décisions qu'on va prendre aussi. Donc, notre algorithme ne prédit toujours pas l'avenir. Il décrit. C'est comme un tableau de bord. Donc, il n'indique pas ce qui va arriver, mais il montre si le système est stable, fragilisé, ou bien s'il est proche d'un basculement. Donc, alors qu'on cherche toujours à rendre l'algorithme prédictif, ça veut dire, est-ce qu'on peut anticiper réellement le futur, qu'est-ce qui va arriver dans nos sociétés? Mais on peut se poser la question aussi, doit-on réellement se donner la capacité d'anticiper les changements sociaux dramatiques au risque de transformer le futur que l'on tente précisément d'éviter?
Wow, grande question, hein?
Ouais.
Assez troublant, je serais portée à répondre oui, mais si c'est pour le mieux.
C'est ce qu'on espère.
Merci beaucoup, Roxane de la Sablonnière. À la prochaine.
Merci.